Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de Métropolez-vous. Vous en avez sans doute entendu parler, les chiffres du dernier recensement sont tombés. La population française atteignait près de 66 millions d'habitants au 1er janvier 2014. Qu'en est-il pour la ville de Toulouse, la métropole et l'aire urbaine toulousaine? Là aussi, les chiffres ont été dévoilés et l'on constate sans surprise que la forte dynamique démographique de notre territoire se confirme. Ce sera l'objet de cette émission au cours de laquelle nous allons essayer de montrer la réalité que recouvrent toutes ces données et les conclusions et analyses que l'on peut en tirer. Dernier recensement, croissance démographique de la métropole toulousaine, les tendances et les enjeux derrière les chiffres. Et pour entrer dans le détail des chiffres et des évolutions constatées dans ce dernier recensement, il fallait un vrai spécialiste et parfait connaisseur de la question. Nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui en la personne de Bernard Nozière, chef adjoint du service études diffusion de l'INSEE Occitanie, que je salue et remercie pour sa présence dans ce studio. Je pense que tout le monde connaît l'INSEE, au moins le sigle, et je rappelle au passage que l'INSEE, c'est l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, et qu'il est rattaché au ministère de l'Économie et des Finances. En revanche, je ne suis pas certain que tous nos auditeurs connaissent précisément ces fonctions. Donc Bernard Nozière, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont la raison d'être et les missions de l'INSEE ?
Bonjour, donc l'INSEE c'est effectivement un sigle qu'on entend souvent dans les médias, qu'on voit dans les journaux. Il y a deux, trois missions essentielles, hein. il y en a plusieurs, mais les deux, trois missions principales, alors c'est d'abord la collecte de données et la fabrication de statistiques, donc mise à disposition du grand public, de l'ensemble des citoyens, des élus, du gouvernement, comme dans tous les pays, toutes les grandes démocraties du monde, un institut national de statistique donc est chargé de produire de l'information statistique. Donc je prends l'exemple plus classique, c'est le recensement de la population dans tous les pays qui se fait de manière très peu différente d'un pays à l'autre et il s'agit de mettre à disposition ces chiffres. La deuxième mission, c'est d'analyser, d'étudier ces chiffres, de leur donner du relief, et la troisième mission, c'est de les diffuser. Donc en ce qui concerne l'INSEE, eh bien le vecteur principal de la diffusion, c'est le site insee.fr qui comporte une masse très importante, énorme de données.
Et vos principaux partenaires, j'allais dire clients, c'est pas tout à fait le terme, les partenaires, c'est-à-dire que les gens qui s'appuient sur vos études, qui sont-ils? Quels sont les organismes concernés?
Alors, je vais prendre l'exemple local, régional. Donc l'INSEE est implanté dans toutes les régions, avec une direction régionale dans les 13 régions de métropole et même dans les DOM. Et nos partenaires, effectivement, c'est bien comme ça qu'on doit les appeler, mais nous travaillons avec deux catégories de partenaires. Il y a d'abord les services de l'État en région ou en département. C'est surtout en région, c'est le premier d'entre ces services, c'est évidemment le service de la préfecture et le préfet de région. Mais c'est aussi les grandes directions régionales qui reflètent les grandes politiques au niveau national. C'est par exemple la direction régionale de l'aménagement, du logement, de l'environnement, ce qu'on appelle la DREAL. Il y a la direction en charge, la directe en charge de l'emploi, de l'économie, la direction de l'agriculture et de la forêt, l'agence régionale de santé, etc. Voilà, je passe. Donc ce sont les principaux partenaires de l'INSEE au niveau État. Et puis on a évidemment les collectivités locales, donc la première d'entre elles, le conseil régional dans chaque région, mais aussi les conseils départementaux, donc les 13 départements d'Occitanie, les agences d'urbanisme, comme l'agence d'urbanisme de Toulouse Aire Urbaine, ou celle de Nîmes ou de Perpignan, les métropoles, comme Toulouse Métropole ou Montpellier Métropole, les communautés d'agglo, etc.
Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Les chiffres du dernier recensement font partie de l'actualité récente de la métropole toulousaine, mais il y a d'autres nouvelles importantes dans l'actualité métropolitaine. Je vous propose de les découvrir dans quelques instants grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et pour être original, on va justement commencer ce flash d'information avec les résultats du dernier recensement. Médaille d'or pour la ville rose, elle se place au premier rang des villes françaises, enregistrant la plus forte augmentation de population.
Oui, les chiffres de l'INSEE parus le 1er janvier 2017 montrent que Toulouse, quatrième ville de France en nombre d'habitants, passe première quand il s'agit d'évoquer sa croissance démographique. La capitale de l'Occitanie accueille de nouveaux habitants à un rythme que seul Lyon peut suivre. Toulouse compte en 2014 406 66 297 habitants contre 458 298 l'année précédente, soit une augmentation de presque 8 000 personnes en un an.
Mais Toulouse n'est pas la seule ville de l'agglomération à gagner des habitants.
Non, parmi les villes qui grandissent le plus en nombre sur la période 2009-2014, Toulouse figure en tête avec une hausse de 26 200 habitants, deuxième ville du département Colomiers, puis Ramonville, Balma, Blagnac, Muret, Castanet, Tolosan et Tournefeuille. Pour Toulouse Métropole, qui compte 746 919 habitants, l'évolution est de 11 975 habitants en un an. Contrairement aux idées reçues, ce sont les classes intermédiaires et les cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont les plus nombreux à s'installer dans l'agglomération.
Nous en avions déjà parlé dans cette émission, les produits chimiques pour l'entretien des espaces publics, c'est fini, voici l'heure du zéro phyto.
Depuis le 1er janvier, Toulouse Métropole, comme toutes les collectivités, ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts et des lieux accessibles au public comme les trottoirs, les allées ou encore les ronds-points. La loi sur la transition énergétique et la croissance verte s'appliquera aux particuliers pour leur jardin dès 2019.
Et il y a plusieurs objectifs derrière ce défi, l'environnement bien sûr, mais pas seulement.
Oui, c'est aussi un moyen de protéger la santé des riverains, des agents aussi. Présents dans les aliments, l'eau et l'air, les résidus de pesticides peuvent avoir à plus ou moins long terme des conséquences néfastes sur la santé. Outre la santé, il s'agit aussi de préserver l'environnement, les nappes phréatiques et leurs écosystèmes. Les agents de Toulouse Métropole procéderont désormais à un désherbage en utilisant des techniques alternatives, balayeuses avec des brosses plus dures, outils de coupe ou encore la bonne vieille binette. Le choix d'espèces végétales demandant peu de traitement sera aussi privilégié. Attendez-vous à voir vos espaces verts plus verts. Abandonner les produits chimiques nécessite des interventions plus fréquentes des équipes techniques pour maîtriser la flore. Ils ont de quoi faire.
Et puis, un grand chantier qui commence, la basilique Saint-Cernin, sa place et son patrimoine culturel font l'objet d'un vaste projet d'aménagement. C'est ce qu'il convient d'appeler maintenant le Grand Saint-Cernin.
Un projet qui comprend la restauration et la valorisation de l'édifice religieux, l'aménagement de la place et la mise en valeur du patrimoine culturel. Les premiers coups de pioche ont été donnés lundi sur la place Saint-Cernin. Il s'agit des travaux sur les réseaux d'eau et d'électricité. Les concessionnaires Enedis et Veolia doivent remplacer ou adapter les câbles électriques et la canalisation d'eau potable qui date tout de même de 1955 pour anticiper les futurs besoins. Les aménagements de surface interviendront en 2018 et 2019. Sachez que durant les travaux, l'atelier Grand Saint-Cernin accueille le public pour les informer au quotidien sur le projet, son calendrier et les modalités pratiques comme la circulation, le stationnement ou encore les livraisons.
Voilà donc ce bulletin d'information métropolitain de la semaine. Et on en entend beaucoup parler, donc cette évolution de la population toulousaine, qu'on nous parle de 8000 habitants de plus en un an, qui serait aussi une évolution qui serait quasi continue depuis des années et qui pourrait se poursuivre. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que c'est vraiment 8000 habitants par an, comme j'allais dire, on nous le vend un peu partout dans les médias et peut-être même aussi parmi les élus?
Alors, je vais effectivement un peu nuancer ce message. Le chiffre de 8000 habitants, c'est la différence entre les résultats du recensement qu'on vient de sortir et ceux de l'année d'avant. Alors, ce qu'on ne fait pas à l'INSEE, c'est comparer effectivement justement deux chiffres consécutifs. On ne fait que comparer des chiffres sur 5 ans. Donc, 2014, les chiffres qui viennent de sortir, on les compare à 2009. Pourquoi ? Parce que la méthode de recensement est telle que chaque chiffre produit s'appuie sur en fait des enquêtes annuelles sur une période de 5 ans. Donc, on a couvert la totalité du territoire au bout de 5 ans seulement. Donc, c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable de mesurer l'évolution indépendamment des aléas conjoncturels qui peuvent exister sur des communes, en termes de logement, par exemple. Donc, le chiffre à court terme, l'évolution annuelle moyenne de la commune de Toulouse, c'est 5200 habitants supplémentaires chaque année. C'est du même ordre que la commune de Lyon. Lyon, c'est 5400, vous voyez que c'est un petit peu au-dessus. Pour des populations un peu comparables, Lyon est à 40 000 habitants de plus, puisqu'il y a 506 000 habitants à Lyon et 466 000 à Toulouse.
Donc quand on nous dit que Toulouse a la plus forte progression démographique de France parmi les grandes métropoles françaises, c'est pas tout à fait vrai, si je vous comprends bien.
Toulouse figure sur le podium des trois communes de France où la croissance annuelle de la population est la plus forte sur cette période récente de 5 ans. La première, c'est Lyon. La deuxième, c'est Toulouse. Et la troisième, elle est dans la région, c'est Montpellier, avec 4000 habitants supplémentaires chaque année.
Donc, très fort dynamisme tout de même de la région Occitanie en général. Eh bien, nous voilà sur les rails pour la discussion qui va suivre et notre focus de la semaine. Dernier recensement, croissance démographique de la métropole toulousaine, les tendances et les enjeux derrière les chiffres.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec notre invité Bernard Nozière, chef adjoint du service études diffusion de l'INSEE Occitanie. Alors cette population au 1er janvier 2014, le recensement, les résultats en tout cas dont nous avons parlé, concernent la ville de Toulouse bien sûr, mais aussi la métropole et ce qu'on appelle l'aire urbaine, où aujourd'hui il y aurait 1 300 000 habitants. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'on appelle l'aire urbaine? Quels sont les critères, les limites de cet espace?
Alors l'aire urbaine, c'est une ville, une agglomération, hein, une ville au sens démographique du terme, une agglomération et sa zone d'influence sur un ensemble de zones rurales, parfois urbaines, qu'on appelle la couronne périurbaine. Donc l'aire urbaine de Toulouse, effectivement, c'est l'ensemble de l'agglomération toulousaine qui compte 935 000 habitants, et puis cette couronne périurbaine qui sort même des limites du département de la Haute-Garonne, légèrement, qui déborde dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, un peu dans l'Aude, en Ariège et dans le Gers. Ça va de, par exemple, l'île Jourdain jusqu'à Lavaur, pour les extrêmes.
Mais par exemple, une ville comme Montauban ne fait pas partie de l'aire urbaine toulousaine.
Alors Montauban est elle-même une aire urbaine, qui est effectivement périphérique, qui est collée à l'aire urbaine de Toulouse aujourd'hui. Montauban est ce qu'on appelle un grand pôle urbain. C'est déjà une agglomération de 75 000 habitants qui a suffisamment d'emplois pour elle-même attirer, pour son propre compte, je dirais, des emplois et des navetteurs, ce qu'on appelle des navetteurs.
Est-ce qu'il y a des modifications de la répartition de la population entre Toulouse et les communes périphériques ces dernières années? Au sens où la ville de Toulouse, la croissance serait peut-être ralentie, mais ce serait plutôt les communes alentours qui gagneraient des habitants?
Alors, je vous aurais répondu ça de manière affirmative il y a 2-3 ans. Ce qu'on remarque maintenant, alors la population augmente dans les trois catégories d'espaces de cette grande aire urbaine. Hein. Le premier espace, c'est la commune de Toulouse, hein, qui compte 466 000 habitants, où la croissance est quand même très forte et exceptionnellement forte, on l'a vu, puisqu'elle fait partie des trois communes de France qui ont la plus forte augmentation de population. C'est pas le cas de toutes les grandes villes. Le deuxième espace, c'est ce qu'on appelle la banlieue, donc c'est à peu près en population équivalent, 470 000 habitants. C'est 72 communes autour de Toulouse. Ça va de Colomiers, la plus importante d'entre elles, à des petites communes de 2-3 000 habitants, parfois moins, et qui ont la caractéristique d'être, j'allais dire, collées entre guillemets à la commune de Toulouse au sens du bâti. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une continuité urbaine, on passe d'un espace d'une commune à l'autre sans vraiment se retrouver dans des forêts ou des champs à perte de vue. Et puis le troisième espace, donc j'en ai parlé, c'est la couronne périurbaine, un peu moins de 400 000 habitants. Et ce qui est certain, c'est que la croissance dans cette énorme aire urbaine, qui est la quatrième de France, est très forte dans l'ensemble de ces trois espaces, qui n'est pas si fréquent, qui existe dans d'autres villes, mais qui n'est pas si fréquent.
Donc ça sera une particularité toulousaine?
Voilà, encore une fois, c'est pas la seule, c'est quelque chose qu'on remarque sur beaucoup de grandes aires urbaines dans la moitié sud de la France et dans l'ouest, hein, je pense à Nantes, à Rennes, qui sont les grands espaces attractifs aujourd'hui avec une dynamique démographique forte, mais on le retrouve pas ou très peu dans des métropoles importantes comme Strasbourg, Lille, dans la moitié nord de la France.
Alors voilà des informations qui précisent les choses pour bien savoir de quoi l'on parle lorsqu'il s'agit d'évolution démographique et de nombre d'habitants pour un espace donné. Alors justement, pour savoir quelles connaissances ont les citoyens métropolitains de ces chiffres, nous sommes allés à leur rencontre lors d'un micro-trottoir et la première question que nous leur avons posée était toute simple. Selon vous, combien d'habitants compte la ville de Toulouse à ce jour?
Oh, alors là, c'est vraiment une colle. Oui.
Je sais pas, 70 000
200 000, je sais pas.
Inframuros, 500 000 à peu près.
Quelques centaines de milliers?
Intramuros, je dirais 480 000.
Avez-vous une idée de l'évolution de la population à Toulouse?
Ah, je pense qu'elle en gagne, ouais, de plus en plus. Allez, combien chaque année? 5 000, 6 000? C'est en pleine expansion, on le voit, ça construit partout. Hein.
Alors, il y a quelques années, on parlait de 10 000 par an. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je pense que Toulouse a une taille qui me semble optimale maintenant. Est-ce qu'elle doit augmenter toujours? Je ne sais pas.
Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que Toulouse soit la métropole qui ait la plus forte croissance démographique de France?
Airbus, entre autres, enfin le fait qu'il y ait du travail et qu'il n'y en a pas ailleurs.
Je crois qu'il y a quand même des emplois, sinon les gens ne viendraient pas. Peut-être les gens du Nord qui viennent un peu vers le Sud, mais je ne sais pas.
Pour le climat, pour le tourisme, pour les universités aussi, on est bien placé.
Pensez-vous que cette forte hausse de la population est une chance pour la métropole ?
La tranquillité qu'on avait, en fait, on l'a plus forcément, parce que partout où on va, c'est blindé. Tout ce qui est fait, il y en a de plus en plus partout, en fait. Le tapage nocturne, tout ça, ça augmente.
C'est la quatrième ville, mais c'est quand même un esprit un peu petite ville de province. On traverse très facilement le centre-ville. On peut tout faire à pied, il n'y a pas de problème.
Ben non, ça se complique déjà maintenant, parce qu'il y a des problèmes dans les transports en commun. Parce que là, aux heures de pointe, c'est même toutes les deux minutes, tu n'arrives pas à rentrer dans le métro. Trop concentré par rapport à la population.
C'est sympa de vivre à Toulouse, le temps. Bon, après, c'est pas facile de trouver un logement, quoi. C'est ça le problème.
Bernard Nozière, après avoir écouté ce micro-trottoir, notamment les réponses à la première question, est-ce que vous êtes surpris qu'il y ait parfois une telle méconnaissance de la population de la ville de Toulouse parmi ceux qui y habitent et qui s'y promènent tous les jours ?
Oh, c'est un peu surprenant d'entendre 70 000 habitants pour la quatrième commune de France. Après, je suis plutôt agréablement surpris. Moi, je trouve que dans les réponses qui sont faites, on n'est pas très loin de la vérité. Hein. C'est surprenant.
Oui, plusieurs personnes ont répondu effectivement 500 000, 480 000, oui, quelques centaines de milliers. Bon, ce qui effectivement est en rapport avec les 466 000 du dernier recensement. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que l'apport de population... que beaucoup de gens, notamment les élus, voire je sais pas des chefs d'entreprise, peuvent voir de façon très positive, il suscite quand même pas mal d'inquiétudes parmi les habitants de la ville.
Oui, c'est effectivement ce qu'on peut constater, parce que les gens, les citoyens, les habitants d'une agglomération comme ça en pleine croissance, voient le changement, pas au jour le jour, mais chaque année, on a l'impression au mois de septembre qu'il y a un peu plus d'embouteillage, on voit les nuisances, on n'est pas content parce qu'il y a un immeuble qui se construit à côté de chez soi et... Donc effectivement, c'est sans doute la source de l'inquiétude. Ce qu'on peut relever, c'est qu'une partie non négligeable des habitants de Toulouse et des nombreuses communes périphériques sont quand même peuplées d'habitants qui n'habitaient pas là il y a 10 ans, 20 ans et qui ont bénéficié de l'accueil de ce territoire et qui sont devenus finalement Toulousains et en se disant, en ayant peur des nouveaux arrivants.
On a l'impression qu'il y a des gens qui redoutent la disparition de ce qu'on appelle parfois le Toulouse village. En tout cas, l'ambiance village peut y avoir à Toulouse. Ça existe encore, ça, selon vous? C'est un peu une vue de l'esprit, une espèce de fantasme qu'on aurait.
Oh, je pense que Toulouse, comme toutes les grandes villes, toutes les villes, vous voyez, je dis les grandes villes, comme toutes les villes qui sont en forte croissance, voilà, suscite des inquiétudes. Et cet esprit village, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas disparu depuis très longtemps déjà. Les gens ne veulent peut-être pas le voir, mais ce qui est certain, c'est que dans les années 50, Toulouse était déjà une des plus grandes villes du pays, mais c'était plutôt une grande agglomération un peu endormie économiquement, qui a été évidemment réveillée par la suite, hein, de l'évolution économique, l'implantation ou le renforcement de l'implantation de l'aéronautique, puis du spatial, qui a dynamisé la ville, c'est vraiment incontestable, je pense, même s'il n'y a sans doute pas que ça. L'esprit village, je pense qu'on peut très bien avoir un esprit village. On parle de l'esprit village dans certains quartiers de Manhattan ou à Paris, donc je pense qu'on peut très bien garder un esprit quartier qui correspond à l'esprit village qu'évoquent souvent les habitants.
Alors dans ce micro-trottoir aussi, il y avait la question sur l'évolution de la population. D'ailleurs, les gens ont plutôt bien répondu. Il y a quelqu'un qui a dit 5, 6 000 personnes de plus chaque année. Bon, on a parlé de 8 000 tout à l'heure. Sauf que cette évolution, ces milliers de personnes, enfin en tout cas ces milliers d'habitants qui rentrent plus chaque année à Toulouse, dans la métropole et dans l'aire urbaine, de quoi s'est fait cette évolution? Parce qu'il y a deux choses. Souvent on nous présente ça comme si c'était que de la part extérieure, des gens qui seraient de provenance parfois assez lointaine. Or, il n'y a pas que ça là-dedans, il y a aussi ce qu'on appelle le sol naturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le sol naturel?
Alors effectivement, la population d'un territoire, elle évolue, elle augmente ou elle diminue par le jeu de deux éléments. Le premier élément, ben, on l'oublie très souvent, je vais y revenir dans le cas de Toulouse, et ben, c'est le nombre de naissances et le nombre de décès. Chaque jour, chaque année, il y a des décès et des naissances qui ont lieu sur le territoire et il y a un excédent ou un déficit des naissances par rapport aux décès, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. Donc ce solde naturel, il est positif ou négatif. Dans le cas de la commune de Toulouse, il est largement positif, il y a beaucoup plus de naissances que de décès, c'est le cas de toutes les grandes villes, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Et c'est même l'unique raison de mathématiquement de l'augmentation de population sur la commune de Toulouse. Et c'est, certainement, ça va surprendre beaucoup de nos concitoyens. Le deuxième élément, c'est l'attractivité, donc l'apport migratoire. Il y a des gens qui arrivent chaque année, qui partent. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui partent, même dans une grande ville comme Toulouse. Et donc, on définit le sol migratoire. Alors, la ville-centre, hein, la commune de Toulouse, a un solde migratoire qui est quasiment nul, contrairement à ce qu'on peut imaginer, même si elle attire énormément, mais il y a aussi des gens qui repartent. Alors, je n'ai pas dit qu'ils repartaient, c'est pas les mêmes, et ils ne partent pas forcément à l'endroit d'où ils venaient pour ceux qui viennent et qui repartent. Je vais rentrer un peu plus, vous donner quelques indications. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que plus on s'éloigne du centre de la ville, quand on va en banlieue ou en couronne périurbaine, à chaque fois le solde naturel est positif, comme dans, d'une manière générale, toutes les villes et leurs zones d'influence. Par contre, le solde migratoire augmente. En banlieue, il est positif, et en couronne périurbaine, il est encore plus positif.
Alors, justement, ça va nous donner l'occasion de préciser, l'évolution constatée à Toulouse existe aussi dans les communes, les autres communes de l'agglomération. Quelles sont celles, aujourd'hui, sans donner forcément de chiffres précis, qui profitent le plus de l'augmentation de la population autour de Toulouse? Alors, il y a, je sais pas, les grandes villes comme Colomiers, Blagnac, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vraiment se détachent?
Alors, première réponse qu'on peut faire, c'est que ce qui est assez remarquable, sur les 73 communes de l'unité urbaine, hein, ce qu'on appelle unité urbaine, c'est l'agglomération, ou même sur les 450 communes de l'aire urbaine, l'immense majorité bénéficie d'une hausse de population. Quelques cas de communes, mais il y en a très peu, je peux vous en citer une ou deux dans l'agglomération. L'Union, par exemple, perd très peu, mais stagne ou perd quelques habitants sur la période récente, sur les 5 ans toujours. Sinon, les communes qui gagnent le plus d'habitants, alors dans l'absolu, c'est Colomiers qui est en tête, avec 850 habitants supplémentaires chaque année, qui est une hausse très forte. Hein. Colomiers, c'est une ville de 38 000, presque 39 000 habitants. Ben, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une ville de la taille aujourd'hui de Tarbes, de la ville-centre de Tarbes, ou d'Alès, dans le Gard. Donc, en dehors de Colomiers, sur la période récente, il y a effectivement de fortes hausses sur Ramonville, Castanet, Balma sont les plus fortes hausses. Elles sont aussi très fortes, toujours, du côté de la banlieue ouest, hein, Tournefeuille, Cugnot, Plaisance-du-Touche, Muret aussi, au sud-ouest. On voit bien qu'il y a à 360 degrés une dynamique très forte.
Alors, une question que peut-être nos auditeurs se posent, c'est comment les étudiants sont pris en compte dans ces recensements? Qu'est-ce qu'ils représentent, eux, dans la hausse? On parle de 100 000 étudiants à Toulouse, vous allez me confirmer le chiffre, je crois qu'il est à peu près juste.
C'est de cet ordre.
Est-ce que c'est un chiffre qui, lui aussi, est en évolution, c'est-à-dire à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent à Toulouse, ou est-ce qu'on arrive à un palier et que finalement, c'est pas une donnée importante dans l'évolution de la population?
Si, si, le nombre d'étudiants est vraiment une donnée importante dans l'évolution de la population de la ville-centre, et donc par contre-coup de l'ensemble de l'agglomération. Je vous ai dit tout à l'heure que le solde migratoire sur la commune de Toulouse était quasiment nul. Il se trouve qu'il est très positif avec les étudiants, c'est-à-dire que chaque année, la ville de Toulouse attire davantage d'étudiants qu'elle n'en perd. Donc ça, c'est caractéristique d'une des villes de province les plus attractives sur le plan universitaire et au niveau national, puisqu'elle attire des étudiants de toute la France. Et on a deux métropoles, au passage, deux villes de cette catégorie en Occitanie, puisque Montpellier a cette caractéristique aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, l'évolution de la population, elle doit beaucoup, sur la ville-centre, aux étudiants, qui sont au nombre d'environ 100 000. La population d'étudiants sur Toulouse augmente, mais pas de manière extraordinaire, malgré cela, parce que les étudiants, il ne faut pas oublier qu'ils sont recensés comme étudiants, mais ils ne restent pas étudiants toute leur vie, heureusement pour eux. Et donc, après, ben, ils peuvent rester sur place en devenant cadre ou profession intermédiaire. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement très fort.
Si on essaye maintenant de se projeter un peu dans l'avenir, dans les 10-15 ans qui viennent, je pense qu'un de vos rôles, en tout cas ce que attendent de vous, notamment les collectivités territoriales, et des collectivités comme des villes ou des métropoles, sont des projections de l'évolution de la population. Les tendances qu'on constate depuis 5-10 ans, est-ce qu'elles devraient se maintenir, voire s'accentuer? Et est-ce qu'on peut mesurer, partant de là, des conséquences pour le logement, l'emploi, les services publics ou les transports?
Alors, l'INSEE ne peut pas faire, comme je pense, j'imagine, la plupart des personnes est capable de faire de la prévision, hein, vraiment. Ce que l'INSEE fait régulièrement sont des exercices de projection démographique. Donc ce qu'on est capable de faire, c'est, avec des mécaniques un petit peu complexes à mettre en œuvre, de dire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va guère au-delà, eh bien, si les choses continuent à se passer de cette manière, voilà combien d'habitants et quelle catégorie de population on devrait avoir sur le territoire de l'agglomération toulousaine, par exemple. On peut aussi jouer sur des paramètres en entrée en disant, bon, imaginons que la fécondité se maintienne ou qu'elle augmente ou qu'elle diminue, que le sol, l'apport migratoire augmente, diminue, etc. Et on peut avoir finalement plusieurs scénarios. En général, on dégage deux ou trois scénarios qu'on considère comme plus vraisemblables que d'autres, et c'est ça qui intéresse effectivement les élus, les acteurs publics en matière de politique publique, parce que vous avez cité les logements, mais il y a bien d'autres choses. Il y a les infrastructures de circulation routière, il y a l'aménagement urbain, suburbain, les problèmes environnementaux de plus en plus
liés.
Les écoles, voilà, bien sûr.
Et puis les établissements hospitaliers. Les conséquences sont multiples. Et bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre venue et toutes ces informations, Bernard Nozière. On entend souvent qu'on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres, et notamment lorsqu'il s'agit des chiffres de l'INSEE. Le meilleur moyen de se faire une idée juste de la réalité qu'il recouvre, c'est de savoir sur quelle base, sur quels critères ils sont calculés. C'était le but de cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site de l'INSEE, www.insee.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.